Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition du 27 mai 2014, chez Rubin Dorcil à Washington, en compagnie de Morgane Guiriec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, nouvelle attaque de Boko Haram, 45 morts dans le nord du Nigeria. En Somalie, près de 40 personnes ont été tuées dans une attaque à la frontière avec l'Éthiopie. Retour au calme dans certains quartiers de Bangui en République centrafricaine, mais les inquiétudes persistent.
Il y a la psychose qui a gagné tout un chacun, c'est une situation très difficile.
Moscou appelle Kiev à mettre fin immédiatement à son opération militaire contre les séparatistes de l'Est. Sans oublier, bien sûr, les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Au Nigeria, au moins 45 morts dans une nouvelle attaque attribuée à Boko Haram, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les centaines de lycéennes kidnappées à la mi-avril par la secte islamiste. On fait le point avec Issa Napon.
Hier, la ville de Bouniyadi, dans l'état de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Au moins 45 membres des forces de sécurité ont été tués. Les assaillants, assimilés à des combattants du groupe islamiste, ont emporté plusieurs véhicules, dont un blindé. Par ailleurs, les recherches continuent pour retrouver des centaines de lycéennes enlevées par Boko Haram depuis la mi-avril dans l'état de Borno. Le chef de l'état-major des forces armées nigérianes, le maréchal Alex Badé, a déclaré hier qu'il savait où se trouvent les jeunes filles, mais qu'il ne peut pas le révéler. Selon l'AFP, l'ancien président Olusegun Obasanjo aurait engagé des négociations indirectes avec les islamistes nigériens pour tenter d'obtenir la libération de ses otages. Le gouvernement d'Abuja n'a fait aucun commentaire sur ces éventuelles discussions.
L'armée camerounaise a déployé des renforts près de sa frontière avec le Nigeria pour faire face à la menace que représente Boko Haram. Le président camerounais Paul Biya et son homologue tchadien Idriss Déby Itno ont déclaré la guerre à Boko Haram après leur rencontre cette semaine à Yaoundé.
Nouvelle attaque en Somalie, près de 40 personnes ont été tuées dans un village à la frontière avec l'Éthiopie, un acte attribué aux islamistes d'Al-Shabaab. Bagassi Koura.
Le gouverneur de la région de Bakoul en Somalie, Mohamed Abdi Tall, a indiqué que des membres du groupe Al-Shabaab ont attaqué tôt ce matin le village de Ato, près de la frontière avec l'Éthiopie. Selon lui, 27 membres d'une milice locale et 12 combattants islamistes ont été tués et le village est resté sous le contrôle des milices qui collaborent avec les gouvernements des deux côtés de la frontière. Al-Shabaab a perdu la plupart du territoire qu'il contrôlait en Somalie, mais l'organisation liée à Al-Qaïda constitue toujours une menace. Samedi dernier, les combattants d'Al-Shabaab ont pris d'assaut le Parlement à Mogadiscio. 10 membres du personnel de sécurité, 8 militants d'Al-Shabaab avaient été tués et 4 députés blessés.
39 des 48 blessés de l'armée malienne à Kidal sont arrivés à Bamako. Dès leur arrivée à Bamako, ils ont été répartis entre les différents hôpitaux de la capitale. Le point avec Kassim Traoré.
C'est à la base 101 de l'aéroport de Bamako que le premier avion a fait son atterrissage. À son bord, des blessés graves de l'armée malienne. Ils viennent de Gao où ils ont reçu un premier soin. Amadou Konaté, ministre de la Solidarité et de l'Action Humanitaire.
Quand on voit les blessés qui sont arrivés, on salue leur bravoure, on salue leur don de soi et on leur dit l'État malien sera à leur côté jusqu'à ce qu'ils recouvrent leur santé. Nous avons 39 blessés. Et sur ces 39 blessés, nous avons 4 blessés qui sont un peu lourds parce qu'ils ont eu des traumas crâniens.
De Kidal à Bamako, en passant par Gao, le Mali salue ses alliés de la MINUSMA et Serval pour le bon acheminement de ses blessés.
Et il nous avait été demandé, ou émis plutôt le souhait, qu'ils puissent être amenés à Bamako pour les traitements complémentaires dont ils avaient besoin. Je dois saluer nos partenaires de la MINUSMA qui nous y ont aidés. Je dois saluer aussi Serval qui, à Gao, a appuyé notre dispositif médical.
Les autorités maliennes ont fait la répartition de ces blessés en fonction des plateaux techniques des différents hôpitaux de la capitale malienne, Bamako. Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
En République centrafricaine, le calme est revenu dans les 5e et 3e arrondissements de Bangui. Les crépitements d'armes ont cessé et les activités ont même repris aujourd'hui sur le site des déplacés de l'aéroport de la capitale. On fait le point avec Idriss Fall.
Un calme relatif a régné toute la journée dans ces arrondissements. Pendant 2 jours, de violents combats avaient opposé les anti-Balaka à des musulmans armés et il a fallu l'intervention des forces internationales de la MISCA et Sangaris pour rétablir l'ordre. Aucun bilan n'est disponible. Les activités sont paralysées dans le secteur de PK5 et une partie du 5e arrondissement. Lazare Ngadder, coordinateur du collectif 236, km 5, une organisation de sensibilisation sur la paix et le désarmement, craint un retour à la case départ.
Il y a la psychose qui a gagné tout un chacun. C'est une situation très difficile. Cela fait plus de 3 mois que nous avons entamé ce processus de désarmement intellectuel, comme nous aimons le dire, avant le désarmement physique. Et c'est vrai que nous avons été très touchés, très marqués par ce qui s'est passé depuis 3 jours. C'est 3 mois d'efforts qui sont partis presque en l'air. Et oui, il nous faut repartir à zéro. Repartir à zéro pour convaincre les cœurs. Repartir à zéro pour parler à ceux-là qui avaient déjà accepté même le principe vraiment de ce désarmement moral et qui aujourd'hui, par rapport à un certain nombre de faits, sont obligés de reprendre les armes.
Par ailleurs, les activités ont repris sur le site des déplacés de l'aéroport de Bangui. Une rumeur d'attaque avait semé hier la panique parmi les déplacés et dans les localités avoisinantes.
En Libye, le nouveau chef du gouvernement, Ahmed Mitig, a été la cible d'une attaque perpétrée ce mardi par des hommes armés. Jacques Aristide.
Oui, des tirs ont été entendus très tôt ce matin autour du domicile du Premier ministre à Tripoli, la capitale. Il s'agissait d'une attaque à la roquette et aux armes légères, d'après un porte-parole qui affirme que Ahmed Mitig et sa famille en sont sortis indemnes, même s'ils se trouvaient à la maison durant l'attaque. 2 des assaillants ont été blessés, d'après le même porte-parole. Investi il y a seulement quelques jours et soutenu par des islamistes, le chef du gouvernement est déjà très critiqué en Libye, un pays où règnent différents groupes armés depuis la chute de Muammar Kadhafi. Les attaques sont d'ailleurs pratiquement quotidiennes. Hier, c'est un rédacteur en chef qui a été abattu à Benghazi, Mofta Abou Zeid, qui tirait à boulets rouges sur les parlementaires islamistes, mettait en garde contre une guerre civile si des élections anticipées n'étaient pas organisées dans les plus brefs délais.
Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto a signé un accord avec le gouvernement guinéen pour l'exploitation du site de minerai de fer de Simandou dans le sud-est de la Guinée. Nathalie Barge a joint à Conakry le ministre guinéen des Mines et de la Géologie, Kerfala Yansané.
Le projet avec Rio Tinto, on peut imaginer qu'il peut toucher entre 45 000 et 100 000 personnes en période de construction, également en période d'opération, sans compter les retombées sur les PME guinéennes qui devraient pouvoir travailler en termes de sous-traitance avec les compagnies internationales. On peut également imaginer que l'apport du projet Rio Tinto, qui est quand même plusieurs fois le PIB de la Guinée, permet à terme de doubler ou de tripler le PIB de la Guinée, non seulement en termes de création d'emplois, mais également en termes de contribution fiscale au budget de l'État, qui devrait, d'après nos calculs, doubler ou tripler dans les 5 à 10 ans qui viennent.
Kerfala Yansané, ministre guinéen des Mines.
Effondrement d'une mine d'or au Ghana, 6 mineurs illégaux ont été tués et 3 blessés dans la région centrale d'Ashanti. Un grand nombre de chercheurs d'or chinois et d'autres nationalités sont arrivés au cours des dernières années dans cette partie du Ghana.
Le Soudan du Sud, frappé par le choléra, l'OMS compte désormais plus de 670 cas. 23 morts à Djouba. Des cas suspects ont été signalés dans d'autres états, notamment à Jonglei dans l'est et dans le Haut-Nil dans le nord-est.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Moscou demande l'arrêt immédiat de l'opération militaire de l'Ukraine contre les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Selon les services de presse du Kremlin, le président Vladimir Poutine a appelé l'Ukraine à mettre fin aux opérations punitives et à ouvrir le dialogue pour la paix. Une déclaration similaire a été faite par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. À Kiev, cependant, les autorités disent vouloir maintenir l'offensive jusqu'à la reddition ou la destruction des rebelles.
Suite à l'investiture de Narendra Modi à New Delhi, le nouveau Premier ministre indien a exhorté son homologue Nawaz Sharif du Pakistan à sévir contre les groupes extrémistes. M. Modi a notamment demandé au Pakistan d'empêcher que son territoire serve de base pour les attaques terroristes contre l'Inde. Le Premier ministre Nawaz Sharif a, lui, souligné la nécessité de remplacer la confrontation par la coopération. Les deux hommes ont également discuté de la normalisation des échanges commerciaux entre New Delhi et Islamabad.
En Syrie, des inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont été attaqués, mais ils sont sains et saufs, selon l'agence onusienne. On ignore pour l'instant le lieu et les auteurs de l'attaque. Les inspecteurs se rendaient sur l'un des sites où des présumées attaques au gaz ont été perpétrées.
L'armée thaïlandaise a arrêté un ministre du gouvernement déchu quelques minutes après qu'il a déclaré que le coup de la semaine dernière n'a aucune légitimité. Le ministre Chaturon Chaisang a dit que le putsch ne ferait qu'aggraver la crise politique en Thaïlande. Les militaires ont détenu la plupart des membres de l'ancien gouvernement.
Toujours pas d'informations sur l'épave du Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu en plein vol le 8 mars dernier. Mais aujourd'hui, l'Australie a conclu que l'avion s'est abîmé dans l'océan Indien après avoir épuisé son carburant. Le rapport publié ce mardi s'appuie sur l'analyse d'un bref échange de données entre l'appareil et un satellite de contrôle aérien. Il y avait à bord 239 passagers et membres d'équipage.
L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton se dit fière de ses réalisations au département d'État. Son nouveau livre « Hard Choices », choix difficile, doit paraître le 10 juin. Les républicains l'ont critiqué, notamment après l'attaque qui a tué 4 Américains en Libye le 11 septembre 2012. Hillary Clinton est pressentie comme candidate à la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Il est 18h41 en temps universel, 14h41 ici à Washington, chez Robin Dorsil en compagnie de Morgane Guériac pour vous présenter Le Monde aujourd'hui.
Reprise du dialogue inter-togolais pour discuter des réformes avant les prochaines échéances électorales. Ces discussions, qui sont censées prendre fin le 31 mai prochain, ont réellement commencé avec Monseigneur Nicodème Barriga comme facilitateur. De Lomé, la correspondance de Kay Lawson.
Suite aux consultations menées par le Premier ministre les 20 et 21 mars puis le 13 mai dernier, un dialogue s'est ouvert le lundi 19 mai entre les partis parlementaires en vue des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Après avoir élu un bureau provisoire pour conduire les travaux, les parties prenantes au pourparlers ont retenu des sujets de discussion, 12 au total. Antoine Folly de la coalition Arc-en-Ciel est rapporteur.
Le régime politique, la nomination et les prérogatives du Premier ministre, les conditions d'éligibilité du président de la République, la durée et la limitation du mandat présidentiel, l'institution d'un Sénat, la réforme de la Cour constitutionnelle, le mode de scrutin pour toutes les élections, l'amélioration du cadre électoral, le financement public des partis politiques, le statut de l'opposition, la chambre administrative de la Cour suprême, les élections locales et le caractère républicain de l'armée.
Au démarrage de ces concertations, les acteurs se sont donné 2 semaines pour épurer tous les points inscrits à l'agenda. Mais dès le 20 mai, un sujet s'est invité à la table de discussion. Il s'agit de la question de la médiation, sur qui toutes les énergies se sont concentrées. Finalement, c'est le prélat Monseigneur Nicodème Barriga qui sera choisi comme facilitateur pour assurer la modération de ce dialogue. Les discussions ont véritablement commencé hier lundi. Monseigneur Nicodème Barriga, facilitateur du dialogue.
Le démarrage a été un peu difficile, mais nous avons pu examiner les points qui étaient prévus à l'ordre du jour. Nous avons examiné les questions touchant le régime politique, les prérogatives du Premier ministre et les conditions d'éligibilité du président de la République. Sur tous ces points, il y a eu des positions qui ont une certaine convergence et puis il y a des points de désaccord.
Étant donné que les sujets qui font l'objet de discussions sont d'ordre national, le parti politique Le Nid estime que ce dialogue ne doit pas être exclusif. Gabriel Sassoui d'Océanion, président national du parti Le Nid.
Le dialogue doit être inclusif. Il nous faut conclure un pacte républicain. Et de ce pacte républicain, nous pourrions faire l'inventaire de la 4e République et créer cette nouvelle dynamique qui doit nous amener à la 5e République. La 5e République prendra ses racines dans les travaux de la CVJR et va projeter la nation vers des lendemains meilleurs.
Pour pouvoir décrisper l'atmosphère politique très tendue dans le pays, en plus des points concernant les réformes institutionnelles et constitutionnelles, le dialogue en cours prévoit d'aborder la question de la sécurisation des manifestations de l'opposition, l'affaire d'incendie des marchés de Lomé et de Kara et celle d'atteinte à la sûreté de l'État, dont le principal condamné est Kwacha Nyasingbe, le demi-frère du président Faure Nyasingbe. Kailosson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
En près d'un mois, 29 enfants, dont des bébés qui avaient fui avec leurs parents les tueries en Centrafrique, sont morts de soif, de froid ou de fatigue au Cameroun. Le HCR tire la sonnette d'alarme face à ce taux de décès particulièrement élevé parmi les enfants réfugiés de la RCA. Nous avons joint Fatoumata Lejeune Kaba, porte-parole du HCR à Genève.
Nous assistons à une situation très dramatique pour les réfugiés centrafricains qui arrivent au Cameroun. Pour la plupart d'entre eux, ils ont dû marcher plusieurs mois à travers la forêt pour éviter les miliciens anti-Balaka et venir se réfugier au Cameroun. Il se trouve que, dû à la fatigue, au fait que pendant plusieurs semaines, ils ont vécu de feuilles d'arbres sans eau potable, ils arrivent en très mauvais état. Et les enfants sont particulièrement touchés. À titre d'exemple, depuis la mi-avril, on a enregistré 29 décès chez des enfants âgés d'une semaine à 9 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 Centrafricains qui continuent à fuir vers le Cameroun par semaine. Et là encore, c'est un chiffre qui a baissé puisque les anti-Balaka ont bloqué les routes principales qui mènent au Cameroun. Et c'est ça aussi qui force beaucoup de gens à faire des détours puisque les anti-Balaka attaquent les réfugiés en route.
Alors que la crise perdure en Centrafrique, qu'est-ce qui peut être fait pour sauver ces enfants?
Il y a deux choses qu'on peut faire. Déjà, il faut beaucoup plus de présence humanitaire à travers l'Est du Cameroun et avec des ONG compétentes qui pourront très rapidement être opérationnelles pour la prise en charge médicale, pour la prise en charge nutritionnelle, pour stabiliser ceux qui arrivent presque mourants. Ensuite, il faut qu'on ait beaucoup plus de soutien de la part des donateurs pour que nous puissions accélérer le rythme de nos opérations. Et c'est seulement à ce prix-là qu'on pourra aider beaucoup plus de Centrafricains et éviter plus de morts. Dans cette zone-là, il est très compliqué d'apporter suffisamment d'eau, suffisamment de nourriture. La logistique est compliquée. Les zones sont très éloignées. Le Cameroun est un pays qui est assez vaste. Donc, sans assez de financement, il est difficile pour nous, les humanitaires, d'aider autant de personnes aussi éparpillées, puisqu'il y a 85 000 réfugiés centrafricains répartis sur des centaines de kilomètres à travers 300 villages.
Oui, c'est très difficile. Et la solution la plus durable, évidemment, serait que la sécurité revienne en République centrafricaine.
L'idéal serait que la violence cesse en République centrafricaine, que le ciblage des populations musulmanes cesse, que les gens qui soient musulmans, chrétiens, tous les déplacés qui sont, puisqu'il y en a encore plus de 560 000, qui puissent retourner chez eux, parce qu'à défaut de pouvoir rentrer chez eux, ils sont tentés d'aller en exil.
Fatoumata Lejeune Kaba, porte-parole du HCR à Genève.
Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto a signé un accord avec le gouvernement guinéen pour l'exploitation du site de minerai de fer de Simandou. Le projet doit être ratifié par l'Assemblée nationale guinéenne.
Rio Tinto, estimant illégale la manière dont deux concessions lui ont été retirées en 2008, a porté plainte ici aux États-Unis contre Benny Steinmetz et le groupe brésilien Vale qui avait bénéficié de la transaction. Pour des précisions sur l'accord avec Rio Tinto, Nathalie Barge a joint le ministre guinéen des Mines et de la Géologie, Kerfala Yansané.
Il faut que nous puissions réunir un consortium d'investisseurs, tous azimuts. Nous pensons que, compte tenu de l'intérêt de ce projet, nous allons réussir à rassembler les ressources nécessaires au financement du projet.
C'est un investissement beaucoup plus lourd que pour la bauxite, par exemple, parce que les sites de bauxite sont plus près, il me semble, de la côte.
Oui, bien entendu, le chemin de fer est très coûteux, mais nous pensons qu'il y aura des chances que les coûts puissent être amortis assez rapidement, parce que nous avons d'autres gisements qui seraient candidats.
candidats à utiliser le même chemin de fer, qui par définition sont des chemins de fer multi-utilisateurs et même multi-usages.
Au niveau de la transparence et des accords équitables, est-ce que vous, à ce stade-là, vous êtes satisfait?
D'autant plus, madame, que nous avons mis en place des comités qui travaillent en toute transparence et qui regroupent non seulement des agents de l'administration, mais également la société civile. Et les nouvelles conventions qui sont ratifiées seront mises en ligne. On ne peut pas espérer plus que cela en matière de transparence.
Ces batailles légales avec Benishtein, Meds, etc., est-ce que ça s'arrange tout ça? La preuve en est probablement, puisque vous signez l'accord avec la compagnie. Est-ce que c'est une manière de rendre à Rio Tinto ce qui a été pris à Rio Tinto?
Non, il n'y a aucun lien. Ce qu'on a signé hier avec Rio Tinto concerne essentiellement les blocs 3 et 4. Et d'autant plus que Rio Tinto a publié des communiqués pour indiquer que les revendications qu'elle a contre ses anciens associés, entre guillemets, Vale et BRGR, il s'agit simplement de revendications visant la compensation financière de Rio Tinto pour ceux qui semblent avoir été une sorte de tromperie, mais ça, c'est pas sous le contrôle du gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne le litige entre le gouvernement et le groupe BRGR Vale, le gouvernement a tranché, il a retiré les titres et le gouvernement va mettre ces titres-là sur le marché par appel d'offres.
Déclaration du ministre guinéen des Mines, Kerfala Yonsané, qui était joint à Conakry. Alors, Morgane, on va parler de nouvelles stratégies pour atteindre le secteur informel. L'un des objectifs de la 10e édition du MABEF, le marché des assurances, banques et établissements financiers, qui s'ouvre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, demain.
Oui, c'est le rendez-vous annuel incontournable pour les opérateurs du secteur des banques et des assurances en Afrique. Issiaka Koulibaly, directeur administratif et marketing de la Caisse nationale des caisses d'épargne de Côte d'Ivoire, est partenaire de cet événement. Il situe les enjeux de cette 10e édition.
Les voies d'assurance sont très aisées et très faciles, mais le problème que l'assurance a en Afrique en général, c'est un problème de perception, parce que le taux de pénétration qui reste encore faible en Afrique, surtout en Afrique zone CIMA, se situe aux alentours de 1% du PIB brut de nos pays, alors que ce taux-là est de 6,9% au plan mondial, par exemple. Donc, au vu de ces résultats, on peut dire que c'est un peu difficile, mais certains marchés sont en forte croissance dans certains pays, notamment au Maroc, où le taux de pénétration avoisine les 3% du PIB.
Il y a une synergie banque-assurance de nos jours, une synergie en plein essor en tout cas. Oui. Or, en Afrique, il y a beaucoup d'informels. On peut penser qu'il y a beaucoup de laissés-pour-compte.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des niches en matière d'assurance. C'est-à-dire que ce taux faible de pénétration que nous avons s'adresse au secteur formel. Et donc le secteur informel n'est pas toujours capté. D'où l'orientation des assureurs vers les banques, et surtout les banques de proximité, qui, elles, ont une mission de bancarisation de ces populations informelles. Donc, la synergie qu'on développe de plus en plus aujourd'hui, c'est de nous appuyer en tant qu'assureurs sur les établissements bancaires et financiers afin de capter cette niche-là constituée par le secteur informel. Oui.
Quelles sont les perspectives dans le secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire et en Afrique, en général?
En Côte d'Ivoire, il faut dire que la progression est très forte. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire représente un peu plus de 35%, donc voire 40% du marché CIMA. Donc c'est un marché essentiel et important en matière d'assurance. Donc ce qui va se passer, c'est qu'avec le MABEF, que la Caisse d'épargne d'ailleurs accompagne depuis 2004, c'est donc une opportunité et pour les assureurs et pour les banquiers de promouvoir la synergie qui se développe de plus en plus en matière de promotion et de vulgarisation des produits d'assurance et des produits bancaires. Donc c'est le lieu d'inviter les partenaires économiques à visiter ce MABEF-là et à participer aux conférences et panels qui ont lieu. Et les thèmes sont d'ailleurs évocateurs. Donc tout ça permet de sensibiliser et de promouvoir les produits d'assurance et banques et de promouvoir ainsi ces deux types d'activités.
Alors vous parliez de zone CIMA, c'est quoi exactement ?
De la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, c'est-à-dire que c'est une organisation qui a été mise en place par les 14 pays membres de la zone franc et donc qui régule un peu le marché au niveau des assurances, tout comme nous avons la commission bancaire au niveau des établissements bancaires et financiers.
Issiaka Koulibaly, directeur administratif et marketing de la Caisse nationale d'épargne, joint à Abidjan par Jean-Roger Billon.
L'actualité sportive vous sera présentée ce soir en tandem par Bagassi Koura et Félix Yepassi Zembrou. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Gabi. Bonsoir, Morgane.
Bonsoir, Gabi. On commence tout de suite par du football. Le Cameroun qui s'est imposé hier en amical contre la Macédoine.
Exact, Bagassi. Le match s'est joué en Autriche où les Lions indomptables préparent le mondial brésilien. Sans certains de ses titulaires comme Samuel Eto'o, le Cameroun a gagné sur le score de 2-0, but de Webo à la 52e minute et de Choupo-Moting à la 83e. C'est vrai que le Cameroun, Bagassi, a gagné, mais à 2 semaines du coup d'envoi du mondial. Les blessures au sein des Lions inquiètent.
Oui, lors de ce match, Webo, bien sûr, s'est blessé et a rejoint à l'infirmerie les cadres indisponibles tels que Samuel Eto'o, Tchédou, Jean de Makoun et Kanabik. Le cas le plus préoccupant selon Foot Africa 365 est celui de Samuel Eto'o qui souffre de douleurs au genou. Selon l'attaché de presse de la sélection camerounaise, l'attaquant devait se rendre en urgence ce mardi chez un spécialiste pour être pris en charge.
Parlons toujours de Coupe du Monde, mais c'est quoi exactement cette histoire de nourriture saisie au Brésil?
Oui, il s'agit de la nourriture avariée qui a été saisie donc par une agence publique de protection des consommateurs dans les hôtels qui hébergeront les équipes d'Italie et d'Angleterre dans l'état de Rio de Janeiro durant le mondial au Brésil.
Les inspecteurs ont trouvé 25 kilos de crevettes, saumon, margarine et pâtes avec des dates limites de consommation expirées dans les cuisines de l'hôtel Portobello de Mangaratiba qui accueillera l'équipe d'Italie.
Et au Royal Tulip Hotel de Rio où sera logée l'équipe d'Angleterre, 2 kilos de saumon, beurre de jambon avariés ont été découverts. De nombreuses sélections parmi les 32 qui disputeront le mondial comptent apporter leur propre nourriture. Quelques 600 000 touristes étrangers, 3 millions de touristes brésiliens sont attendus lors du tournoi du 12 juin au 13 juillet prochain.
Et dans la NBA, Miami a battu Indiana hier soir. L'équipe de Miami mène par 3-1 contre les Pacers.
Voilà, Roger Muntou vient de prendre place dans le studio. C'est donc l'heure de la musique. Salut Roger.
Salut Morgane. Issiaka dit Amkoulel, hein, comme l'appelle bien sûr Gabi qui dit en couleur. Voilà, rappeur et animateur de télévision malien. Il s'est imposé comme l'un des rappeurs les plus doués de sa génération au Mali en positivant l'image de l'Afrique par la culture. Nous l'avons eu au téléphone et nous avons parlé de la situation que traverse son pays, le Mali.
Actuellement, j'aurais vraiment aimé être au Mali. Comme vous le savez, c'est pas du tout facile. J'aurais vraiment aimé être là-bas et puis continuer à soutenir les populations et le Mali. Bon, j'essaie de le faire à partir d'ici. Actuellement, je suis à Alexandria et on essaie de chacun de faire ce qu'on peut à son niveau.
Et évidemment, en tant qu'artiste, Amkoulel a beaucoup à dire là-dessus.
Ça m'a beaucoup attristé de voir toutes ces victimes, ces personnes qui ont été kidnappées et ensuite relâchées, prises comme otages. C'est incroyable parce que ces personnes qui essaient d'attaquer le pays et la population, ils essaient d'utiliser l'argument comme quoi ils défendent les intérêts des Touaregs maliens. Alors que cela n'est que pure fabulation. C'est un groupuscule de personnes qui embauchent d'autres mercenaires qui travaillent à leur compte. Les Touaregs maliens n'ont jamais dit que ce groupuscule les représentait. Cela est une aberration, une excuse pour justifier leurs méfaits. Et ça, c'est vraiment horrible.
Et la chanson qu'on va écouter, la nouvelle chanson, c'est Nibé Malifé, n'est-ce pas?
Si tu aimes le Mali, ni de Mali fait.
Voilà. Et si tu aimes le Mali, voilà exactement. Et si tu aimes le Mali, qu'est-ce que tu dois faire?
Tu lèves ton bras en l'air, unité.
Un peuple, un but, une foi. Mali, un et indivisible. Abada Maliba Tikla. Tcho!
Tcho! Mon pays ne sera pas divisé.
Tcho!
Et Abada en poisson Tikla.
Tcho!
Ibe malife, ibolo kolo tambe kie, ibi baso fe, isin kolo tambe kaso, ibi kajama na fe, ibo chola magata gata.
Voilà, c'était Amkoulel. Merci Roger.
De rien Morgane.
Roger Muntou que vous retrouvez ce soir à 20h temps universel dans le RM Show.
Et c'est déjà la fin de cette édition. Le Monde aujourd'hui a été mis en onde par Georges Léonard Sagno, assisté de Tian Wang à la console technique. Écrivez-nous sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Pour la présentation, c'était Chérubin Dorcil
et Morgane Guiriec.